monument, bien sûr, il a disparu en partie et on le restaurera comme on pourra. Mais si nous prenons conscience de ce que nous perdons, de ce qu'a représenté toute cette pensée, tout cet art mis au service de la beauté, toute cette réflexion mise au service d'une foi qui est inscrite, que tout ne se partage pas, mais qui a porté et consolé tellement au cours des siècles, à ce moment-là, nous pouvons, nous, prendre conscience que plus nous cherchons en nous-mêmes, plus nous essayons de comprendre qui nous sommes et qui nous sommes par rapport au passé, par rapport au passé des autres, ce qu'il nous a apporté, ce que nous pouvons en garder, eh bien, si cet accident nous invite à faire cela, d'une certaine façon, tout ne sera pas perdu.
Il a fait du béton sa matière de prédilection et du beau une recherche fondamentale. L'architecte Rudy Ricciotti est notre invité aujourd'hui, bâtisseur du MUCEM à Marseille, du centre chorégraphique Le Pavillon Noir d'Aix-en-Provence ou encore de l'Arena à Bordeaux, lauréat du Grand Prix National de l'Architecture en 2006, Grand Prix spécial du jury de l'Équerre d'Argent en 2016 pour le Mémorial de Rivesaltes. Auteur de L'architecture est un sport de combat en 2013, sport donc qu'il pratique. Il publie aujourd'hui L'exil de la beauté chez Textuel. Rudy Ricciotti, bonjour.
Oui, bonjour.
Si nous prenons conscience de ce que nous perdons, de ce qu'a représenté tout cet art, cette pensée mise au service de la beauté, alors nous pouvons prendre conscience de qui nous sommes par rapport au passé et tout ne sera pas perdu, disait à l'instant le médiéviste Michel Zing en introduction donc de cette émission. Qu'a provoqué en vous, Rudy Ricciotti, ce spectacle de désolation hier soir ? Notre-Dame en flammes.
Non, moi je l'ai vu sur mon téléphone portable, puisque j'habite dans l'extrême sud de notre si beau pays, la France. Et c'est... Non mais c'est extravagant, c'est complètement extravagant de désespoir. Mais tout a été dit sur la perte patrimoniale. Ce que je voudrais dire plutôt, c'est que d'abord, un mot qu'on entend très peu chez les cultureux, c'est que c'est un ouvrage important du patrimoine chrétien, comme si le mot chrétien était suspendu à une pudeur qui serait déplacée aujourd'hui, il faut le dire. Deuxièmement, que c'est quand même aussi, pour la flèche, le chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc, qui est un peu boudé par les historiens de l'architecture. Et puis troisièmement aussi, c'est la disparition symbolique de la figure de Quasimodo avec son sourire triste. Et évidemment, on pense à Victor Hugo à ce moment-là. Mais sur Viollet-le-Duc, je me dis que là, nous allons être confrontés à une situation unique. Faut-il refaire à l'identique l'œuvre de Viollet-le-Duc ? Je trouve ça fascinant comme question. Et je viens d'écouter à la radio en venant... depuis la gare, là, je crois que c'est, je sais plus, le cardinal, ou je sais plus quel homme d'église important en France, qui disait, mais il faudra que les créateurs se penchent aussi à nouveau sur la continuité de l'esprit de création qui était celui de Viollet-le-Duc, et qui témoigne aussi de l'extravagance de Notre-Dame, parce que Notre-Dame, quand même, c'est une superposition sur 850 ans d'une, peut-être une centaine d'architectes différents qui ont travaillé. Chacun est allé de la sienne avec son point de vue. Il y a donc dans Notre-Dame aussi un éclectisme. Dans la beauté sublime de Notre-Dame, il y a aussi la beauté, la célébration des beautés un peu différenciées dans les regards que porte chacun des bâtisseurs. Et Viollet-le-Duc est concerné.
C'est un millefeuille, en fait.
Ah, hein. Mais c'est un millefeuille, ouais. Évidemment, comme toutes les cathédrales. Strasbourg, c'est 1000 ans de millefeuille. Même dans les structures verticales, des changements d'organisation stéréotomique. Et là, c'est, une fois encore, on est confronté à un défi. Et il faut positiver dans ce drame et positiver le débat. C'est difficile, ça va paraître déplacé de dire ça, mais positiver sur la question que va-t-on faire dans la restitution de Notre-Dame ? Où devons-nous aller et jusqu'où ? Voilà.
D'autant que vous le rappeliez, 850 ans d'histoire pour cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Et quand Viollet-le-Duc intervient, pose sa main et son empreinte sur Notre-Dame de Paris au 19e, il la rénove et il la transforme en agrandissant la flèche qui s'est effondrée hier soir. Je propose à ce propos d'écouter les mots de l'historien et critique d'art Yvan Christ. Spécialiste de l'histoire architecturale, il parlait en 1979.
Il s'appelle Christ.
La très belle rose du croisillon sud du transept, il l'a complètement refaite, il l'a fait pivoter de je ne sais plus combien de degrés. Elle n'est plus exactement telle qu'elle était avant son passage. Alors Notre-Dame, évidemment, ne disons pas que Notre-Dame lui doit la vie à Viollet-le-Duc. Elle avait, comme je vous l'ai dit, toujours été entretenue depuis la Révolution. Mais Notre-Dame existe, mais ce n'est plus Notre-Dame telle qu'on l'avait vue, telle qu'elle avait existé.
Notre-Dame existe, mais c'était déjà pas celle qu'on avait connue avant, dit à ce moment-là de Viollet-le-Duc Yvan Christ, avec ce nom qui répond effectivement parfaitement à la situation, Rudy Ricciotti. Il faudra donc reconstruire. À l'identique, ça vous paraît être un vain but que de se poser cette question. Il faut arrêter de penser que tous ces monuments sont intouchables. Vous, vous êtes pour faire entrer le temps, les évolutions aussi, même dans une reconstruction. Mettre de côté tout fétichisme.
Non, mais surtout Notre-Dame, c'est l'histoire de la superposition des regards et même des positions esthétiques et politiques quant à l'idée que l'on se fait de la beauté. Regardez, après tout, De Gaulle fait jouer la Marseillaise à la Libération dans Notre-Dame, quand même. C'est pas mal. Pourquoi pas? Non, il faut qu'il y ait débat sur la reconstruction de la flèche. Il faut qu'il y ait débat. Et ce qui me fascine aussi, c'est que les historiens détestent Viollet-le-Duc en général. Vous savez, Viollet-le-Duc est un personnage fascinant. Quand il refait les gargouilles, il invente un système animalier à lui. Lorsqu'il tombe dans une crevasse en visitant le Mont Blanc, il est au fond du trou et il regarde le ciel il voit le ciel à travers la crevasse et il dessine avec son calepin ce qu'il voit de la géométrie de la crevasse. Il était complètement allumé, Viollet-le-Duc. C'était un personnage fascinant. Vous savez qu'il avait même fait un projet de rectification du Mont Blanc. Je trouvais que le Mont Blanc présentait certains défauts esthétiques, il fallait un peu le rectifier.
Il voulait le lisser, l'orienter.
Je sais pas, mais j'ai lu ça un jour, il était assez fascinant. Donc le débat va être extraordinaire. C'est un grand moment où l'intelligence française pourra se célébrer et montrer son énergie.
Alors, une question encore un peu technique. Quels sont, vous, Rudy Ricciotti, les destructions, là, à l'heure qu'il est, qui vous inquiètent le plus? On sait qu'une partie de la voûte a résisté, les tours, la façade, en revanche, que les trois quarts de la nef, du cœur, du transept ont été détruits. Qu'est-ce qui vous semble être le plus grave aujourd'hui?
Je n'ai pas l'expertise technique, puisque nous n'avons pas d'informations. Il faut bien se garder de se précipiter. Mais j'ai beaucoup d'espoir dans le savoir-faire des entrepreneurs et des artisans français. On a un tissu de savants, hein, d'experts, aussi bien c'est les architectes des monuments historiques, les architectes en chef, que dans les entreprises françaises. Et je n'ai aucun doute que tout puisse être refait à l'identique. Même si la structure gothique a une particularité, avec ses contreforts, c'est la minceur et la perte d'épaisseur. C'est-à-dire c'est une élégance extrêmement féminine où la matière est très peu présente. Elle est, par son langage, très présente, mais en réalité, le consumérisme de matière est très très maigre. Et d'un strict plan légal, c'est impossible à faire. Mais comme on est dans un mode dérogatoire dans les monuments historiques, je n'ai aucun doute, et moi je suis très optimiste sur l'idée qu'on puisse restituer toute la structure gothique à l'identique, puisque c'est les voûtes apparemment qui sont touchées, les vitraux ne sont pas touchés, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Les décors intérieurs, très peu ont été touchés, ou alors je n'ai pas les bonnes infos. Après la flèche, le sujet c'est la flèche, voilà. Et moi, je pense, ça va. Là, vous allez avoir des belles émissions en perspective sur la flèche. Parce qu'il va y avoir une querelle tyrannique. Ça va être encore une fois la querelle des anciens et des modernes qui va se réactiver.
Et vous vous situerez où, vous, dans cette querelle-là?
Alors, moi, je n'ai pas de sympathie pour la modernité. Je pense que la rupture, ça suffit. Je n'en tire pas à la conclusion qu'il faut absolument refaire à l'identique Viollet-le-Duc. Bien que par sympathie pour ce rebelle Viollet-le-Duc, je serais enclin à le défendre jusqu'au bout. Mais le débat va rester ouvert, voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer, je trouve ça assez fascinant. Voilà.
Et vous défendrez aussi cette dimension architecturale gothique qu'incarne, Notre-Dame de Paris. Pourquoi? Quelle leçon pour l'architecte dans ce moment-là, dans cette idée de conquérir de la hauteur? Et pour vous qui avez aussi toujours fait de la lumière une dimension centrale de votre travail, qu'est-ce que vous y avez appris comme principes architecturaux dans ce moment gothique?
Le gothique, d'abord, c'est un moment très, très créatif, très inventif de la gestion des efforts, dans la compression, dans la matière, dans la répartition des efforts. Vous savez qu'il y a un double arc-boutant là-bas sur Notre-Dame, qui est une manière de reprendre les poussées latérales, obliques. Donc je ne vais pas faire un discours de technicien, mais c'est très savant. Le gothique, c'est très savant. Le roman ne l'est pas moins, mais le roman, c'est la masse. Le gothique, c'est la féminité, c'est la verticalité. Et cette verticalité, lorsqu'elle naît, pour se matérialiser, a besoin d'inventions techniques. Et là, les architectes, dans une continuité de plusieurs centaines d'années, ont travaillé avec une conscience incroyable de la matière, avec un raffinement. C'est de la haute couture, le gothique. C'est de la haute couture, hein, c'est quelque chose qui est très inattendu. Et tous les gothiques, d'ailleurs, sont parfois différent. Hein. Il y a de nombreuses expressions gothiques. C'est marrant parce que la relation entre le mot gothique et le rock, c'est quelque chose qui est totalement schizophrène. Bien que, on pourrait en parler, bien que.
Et sur les dentelles du Mucem, ces dentelles de pierre des cathédrales gothiques, elles vous ont influencé, vous aussi, dans la manière dont vous avez pu penser la façade du Mucem?
Mais évidemment, je suis assez fasciné par l'écriture et la narration, ou le récit constructif. Le récit constructif appelle des obligations éthiques, des obligations esthétiques, mais des obligations de combat. C'est-à-dire que ça ne se passe pas simplement. Il ne s'agit pas de consommer les matières à disposition, mais bien de les transcender, de les faire dépasser et d'interroger le champ du réel. Là est l'objet aussi de notre métier, c'est-à-dire la quête du beau. Et la quête du beau, elle est toujours à la limite du possible.
Ça va être un travail à l'avenir pour Notre-Dame de Paris dans cette reconstruction, cette restauration. Un travail pour vous d'architecte ou un travail d'artisan? Vous avez évoqué les charpentiers à l'instant.
Ouais. Les charpentiers, les couvreurs, les limousinants, la taille de pierre. Vous savez, c'est une pierre calcaire extrêmement fragile finalement. Je ne sais même pas si on a encore les carrières disponibles pour ce type de pierre. Mais c'est d'abord, il faut le dire aussi, c'est un travail sans signature. C'est ça qui est émouvant dans l'architecture des églises. Ils sont nombreux les artisans inconnus à avoir mis leur émotion, leur mémoire, leur savoir-faire. Et vous savez, ces savoir-faire participent d'une cohésion sociale. C'est très très important. On a besoin de ces métiers. On a besoin de tous ces gens. Vous savez, si une façade du 19e siècle pouvait être décrite par 100 mots, aujourd'hui la façade d'un immeuble contemporain ne peut pas être décrite par plus de 3-4 mots. Si on a perdu 96% des mots, c'est que nous avons perdu 96% des savoirs et 96% des mémoires et 96% des noms de métiers. Donc nous sommes extrêmement appauvris sur ce sujet. Force est de constater que la modernité aujourd'hui, ce discours de rupture, nous a amené à un certain exil de la beauté.
Le langage, le savoir, la mémoire, tout est lié, dites-vous, Rudy Ricciotti. Je reprends quelques-unes des créations ou des bâtiments existants sur lesquels vous avez travaillé, du mémorial de Rivesaltes au musée de la Romanité, de la bibliothèque humaniste de Célestat au sanctuaire de Notre-Dame de Laos. Vous avez souvent, vous, travaillé sur ou à partir de la mémoire et du passé. Est-ce que vous pensez que l'architecte a, dans sa boîte à outils, les moyens de lutter contre cet effacement de la mémoire?
Écoutez, je ne sais pas s'il en a les moyens, mais il a l'obligation. Il a l'obligation politique et esthétique de refuser l'effacement de la mémoire. Et surtout partir du principe que conservation et création ne sont pas opposées. Conservation et création ne sont pas opposées. À partir de ça, si on accepte ce postulat, tout est possible. Et la superposition des époques fait partie de la narration de la ville, de la cité. C'est pas nouveau. Mais notre responsabilité, c'est d'abord de défendre les savoir-faire. Et vous savez, en tant qu'architecte, je suis plus très jeune, je vais avoir 67 ans, et c'est presque 40 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, je n'ai qu'une obsession, c'est de créer des bâtiments avec un degré de récit constructif maximum, de sorte que l'on soit obligé de partager la compréhension et le développement du projet avec des savoir-faire de proximité. C'est-à-dire avec d'autres métiers. Vous savez, notre métier d'architecte, c'est un peu comme l'accordéoniste. Et dans chaque pli, il y a un souffle. Et dans chaque souffle, il y a un savoir, il y a un métier. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'énergie partagée avec tous les savoir-faire, tous les métiers. Voilà. Et c'est ce qui me fascine dans mon métier, c'est le savoir-faire des autres.
Ça veut dire que vous construisez, vous bâtissez aussi aujourd'hui avec l'idée que ce récit, cette narration que vous mettez en place aujourd'hui, devra être compréhensible pour les générations futures?
Alors ça, c'est un autre sujet. Compréhensible, oui, ça fait sens. La moindre des choses, c'est que l'architecture fasse sens, mais elle produit de la circonstance.
Qu'elle fasse sens aujourd'hui et maintenant, mais aussi demain?
Évidemment. Mais très immédiatement, l'architecture produit aussi une économie. Une économie générique dans laquelle nous sommes nombreux à participer à la solidification d'une mémoire des métiers. Voilà. Ça, c'est très important de le comprendre. En tout cas, je n'ai de cesse d'écrire des pamphlets sur ce sujet. pour rappeler notre responsabilité collective et notre culpabilité silencieuse de la disparition des métiers.
Alors, il ne faut pas sacraliser le passé, il ne faut pas dire que tout ce qui s'est fait avant était mieux que ce qui se fait aujourd'hui, mais vous semblez quand même penser, Rudy Ricciotti, que la laideur est une invention contemporaine. Comment est-elle arrivée là? De quoi est-elle l'enfant, cette laideur, pour vous?
Alors là, je vais mettre tout le monde à dos, mais attendez, rappelez-vous la période de la reconstruction après-guerre. On peut dire quand même que l'essentiel de ce qui fut produit dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues, des villes de France, est adossé à une architecture extrêmement pauvre.
Mais il y avait urgence, il fallait faire
vite. Il y
avait
urgence, oui, mais on a l'impression que l'urgence continue. Et ça me fait penser à l'époque à Vasarely. Vous savez, j'ai participé à un film sur Vasarely, où on voit Vasarely venir dans les banlieues en Ile-de-France, et il sent qu'il y a un tel désert culturel, un tel désert patrimonial, il sent qu'il peut fabriquer le pouvoir et prendre la main sur le dispositif. C'est donc bien une désertification de la pensée qui qualifie aussi la période moderne, il faut bien le dire. Alors évidemment, on peut toujours exhiber les patrimoines majeurs du mouvement contemporain, de la période moderne, mais le bilan, il est plus négatif que positif, tout de même.
J'aimerais savoir comment font les gens pour pouvoir vivre dans ces maisons serrées comme des anchois où les enfants qui naissent ont déjà des rides. 1976, Adriano Celentano, I want to know.
I want to know.
Vorrei sapere.
I want to know.
Vorrei sapere.
Vorrei sapere.
I want to know.
Vorrei sapere. Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi in scatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know,
I want to know,
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know. Perché la gente non dice niente ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know.
I want to know, I want to know.
That I fight for the ever, for the veil of the fire. For whatever they have to rip that if for whatever the beva. Look that if of a tip of the fire. Tough for them, tough for the ever, the forever. Tough for them, tough for the ever, the forever.
Adriano Celentano qui a écrit cette chanson donc sur la laideur de l'architecture des grands ensembles italiens. Vous la connaissez par cœur d'ailleurs.
Mais bien sûr.
Bon, vous êtes avec nous jusqu'à 13h30, Rudy Ricciotti. Pour l'heure, il est 13h16 sur France Culture.
France Culture. La grande table, Olivia Gesbert.
Dans l'exil de la beauté qui paraît chez Textuel, vous actez son départ involontaire, conditionné, écrivez-vous, par une fatigue générationnelle des curiosités, invisible à force d'être ignorée, et nous seuls portons la responsabilité de sa disparition. Je vais vous demander de faire preuve d'un peu d'arrogance, pas d'une arrogance incroyable, mais quand même de vous y essayer. Quelle est votre définition à vous de la beauté, Rudy Ricciotti?
Bon, c'est une question politique ou métaphysique que vous me posez, là?
Les deux.
Les deux. Bon, il faut essayer de faire...
Chapitre 1.
Ouais, d'accord.
Thèse, voilà. Antithèse.
La définition de la beauté, c'est ce qui produit une émotion au minimum. C'est quand même tout de même là que ça fonctionne. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'être fiers de constater que la laideur nous a pas totalement envahis, nous a pas totalement défoncés. Il est extrêmement rare de trouver Parce que dans la nature, la beauté est omniprésente, mais c'est un peu simple, c'est un côté un peu Bambi, vous savez. La beauté de la nature, de la forêt, de la mer, du lac, du ciel, des nuages, bon, ça va. C'est bon, on a compris. Il y a un message là. Mais la beauté des artefacts, c'est autre chose. C'est beaucoup plus rare. N'est-ce pas? La beauté de la pensée, la beauté d'un texte, c'est beaucoup plus difficile. Et on est bien confronté à cette idée de refuser la distance qui nous sépare du réel. Voilà. La beauté, il faut aller la chercher. Il faut retrousser les mains, mettre les mains dans la part obscure du monde pour aller chercher la beauté, pour la trouver encore. Il faut se battre, parce qu'au quotidien, c'est bien la laideur qui nous envahit. Aussi bien dans le mode alimentaire que dans le mode urbain, que dans le mode même dans le mode culturel.
Mais il y a un côté préfabriqué à vous entendre parler de la laideur. Est-ce que la beauté, elle, est toujours innée, naturelle, ou est-ce qu'elle se bâtit, elle se construit aussi?
La beauté appelle des exigences, elle se nourrit de difficultés, la beauté. Elle n'est pas une vérité révélée par une verticalité religieuse qui tomberait dans le chakra comme ça. C'est pour ça que je pense que la notion d'émotion n'est pas suffisante à l'expliquer. La beauté renvoie à une complexité politique et à des complexités. Il y a un champ extrêmement étroit entre esthétique et politique. J'ai toujours pensé ça. Et donc la beauté c'est une querelle. C'est une querelle permanente. C'est une difficulté existentielle. C'est ça le mystère de la beauté.
Mais il semblerait que cette conversation, cette réflexion autour de l'exil de la beauté vous soit aussi venue d'une colère, un peu plus qu'un agacement, sur le politiquement correct qui habite aussi votre profession, qui habite aussi l'architecture aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui serait pour vous un exemple de beauté en architecture? Qu'est-ce que ce serait la beauté en architecture et qu'est-ce que ce serait la laideur?
Moi, j'avais pas pensé à cette question. J'aurais dû me préparer. Un exemple de beauté en architecture. Écoutez, déjà, tout ce qui fut construit jusqu'à en 1940, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, s'inscrit dans le territoire de la beauté, selon moi. Et d'ailleurs, j'avais dit dans une interview que tout ce qui fut construit jusqu'à 1940 mériterait d'être conservé, alors que presque tout ce qui fut construit après 1945 mériterait d'être détruit. Alors là, je reçois un coup de téléphone de mon ami Jean Nouvel, et qui me dit, non mais tu te rends compte ce que tu as dit dans telle revue, mais tu n'es pas un peu fou? Et alors je dis à Jean Nouvel, non mais attends, j'ai dit presque tout, toi on te conservera. Donc il y a cette idée de rareté, cette idée d'économie, de la rareté dans la beauté, c'est le prix maximum que nous avons à payer pour continuer à y croire. En tous les cas, c'est une rétention extrêmement pénible. C'est pas la peine de faire une démonstration théorique sur le pourquoi de la laideur qui nous envahit. Vous savez, j'ai encore vu, en matière de laideur, je lisais tout à l'heure sur mon portable, la polémique autour d'Hervé Di Rosa, qui est un artiste majeur de la scène française, où on l'a traité de raciste. Je trouve ça accablant, parce qu'il fait toujours des caricatures, des personnages africains, des grosses lèvres, des gros yeux, etc. Mais la laideur, c'est de traiter Di Rosa de raciste. C'est même pornographique. Et comme puisque vous me tendez la main sur la question du politiquement correct, moi je pense qu'aujourd'hui le politiquement correct est beaucoup plus pornographique qu'une scène sodomite de Rocco Siffredi, voyez-vous. Et ce politiquement correct qui nous vient des universités américaines, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Les névroses, ça se soigne avec des neuroleptiques. Et pas forcément en tabassant le monde de la création et de l'art, qui a déjà assez souffert par le poids écrasant de moralisme de bistrot ou de braguette, non?
Oui. La beauté peut être chienne avec ses admirateurs. Elle le fut notamment pour un certain Jacques Tati, qui, à sa manière, dénonçait les mêmes choses que vous, le réalisateur de Playtime, ou comment le fonctionnel en a cessé de remplacer le beau.
J'ai l'impression que on vit tout de même mieux en observant, vous voyez. Je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'observer. Avant de faire Playtime, je me suis placé sur un pont de l'autoroute et j'ai vu les gens partir le dimanche en détente. Je suis resté 2 heures sur ce pont, les voitures n'ont pas arrêté de défiler et je n'ai pas vu un monsieur ou une famille sourire à l'intérieur de la voiture. Où est la détente? C'est grave, enfin si c'est pour voir un pare-choc. Alors les gens n'ont plus le temps d'observer. Il n'y a plus que les agents qui ont le temps d'observer parce qu'ils sont là. Ils sont dans un carrefour, ils font juste un petit signe avancé et ils regardent et ils finissent par avoir de l'esprit. Les agents finissent par avoir
de l'esprit. Vous croyez?
7 ans pour faire ce film Playtime de Jacques Tati. Vous l'évoquez dans cette conversation, L'exil de la beauté, Rudy Ricciotti, que vous signez chez Textuel. Il a convoqué tout son art, son cinéma, pour dénoncer ce que nos villes étaient aussi devenues, cette transformation du paysage qui atteint le regard directement.
Le grand paradoxe de Jacques Tati, pour lequel j'ai une admiration hors limite, c'est tout de même de s'être ruiné dans son rêve, où il s'agissait probablement de faire une satire de la modernité. Mais vous savez que Playtime, c'est remarquable du point de vue du récit constructif. Il y a très peu d'ouvrages architecturaux aujourd'hui contemporains qui ont la qualité des immeubles de Playtime. C'est ça le grand paradoxe. C'est parfait, techniquement, linguistiquement. Le récit d'une façade en Playtime qui est effectivement accablante quant à la preuve apportée sur la disparition et l'effacement de la mémoire est en réalité accompagné d'un savoir-faire constructif extraordinaire. Mais Tati nous a totalement disloqué. C'est le grand dislocateur du raisonnement moderniste. Et pareil avec Monsieur Hulot, sur la maison. Il y a une ironie. Comment la modernité peut passer du kitsch d'un seul coup, sans prévenir, sans qu'on soit préparé à voir cet exode, cet exil de la beauté, ou même cet exil de l'intelligence.
Vous acceptez d'être qualifié d'architecte réactionnaire?
Je me suis moi-même qualifié d'architecte réactionnaire, maniériste, petit bourgeois, provençal, provincial, sans ambition internationale. Je me suis accablé un peu comme on se pique la maladie pour pouvoir résister au torrent de haine que tout activiste peut générer. Mais là n'est pas le sujet. Vous savez. Pour revenir à
Notre-Dame. Ça l'est un peu parce que vous dites qu'il y a aussi un goût réactionnaire aujourd'hui.
Non, mais c'est la moindre des choses.
D'éducation, c'est intéressant cette question de la réaction et qu'il faut aussi faire ses humanités pour tenter d'échapper à tout ça, d'échapper à cette cannibalisation. Voilà, des singularités, c'est ce que vous racontez, c'est ce que vous écrivez par le consumérisme. La question de la singularité, elle est intéressante aussi et sur ce qui la dévore aujourd'hui.
Bon, écoutez, vous avez décrit l'essentiel du contenu du livre.
Oui, non, mais j'ai pas réussi à dire bien les mots. Vous allez faire
ça.
Non,
mais cannibale, c'est pas mal.
Ouais.
On est confronté à un cannibale. Non, c'est pas mal. Non, c'est très très bon, hein, cannibale. Vous êtes juste, là, vous êtes en place. Mais qu'est-ce qui est réactionnaire? Réactionnaire, ça veut dire réactif à la modernité. Force est de constater aujourd'hui qu'un des arguments le plus réactionnaire à la modernité et à la légitimité de nos désirs contemporains, c'est carrément la culture, qui souvent n'est plus du tout porteuse d'émancipation, n'est plus porteuse de querelles constructives. Le rêve, il n'est plus là. Il n'est plus, malheureusement, je dis ça à France Culture, ce n'est plus la culture qui porte un rêve sociétal. C'est quand même terrible. Ce que je dis tout à l'heure sur Hervé Di Rosa, c'est accablant. Donc, dans ces conditions, il nous faut quand même espérer. Il nous faut espérer, mais pour espérer, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut terriblement se battre. C'est le combat.
Et alors, avec quelles armes ?
Les armes qui sont les nôtres. Après, s'il faut finir au pistolet, pourquoi pas? Moi, je trouve ça peut être intéressant d'armer les cultureux pour tirer dans le tas, vider le chargeur et balancer le flingue, ça peut être intéressant. Non? Vous savez, ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un journaliste arabe qui fait une interview pour différents médias arabes. J'étais stupéfait, j'étais dans le train, il avait une patience incroyable par le fait qu'il s'inquiétait de la nature des dégâts de Notre-Dame, etc. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il fallait en penser? Je trouve ça magnifique que de voir des médias de langue arabe se préoccuper de notre perte patrimoniale. Mais là, on a un témoignage de beauté, d'une beauté de la pensée, d'une beauté présente, avec un autre rapport entre Occident et Orient qui passerait uniquement par des caricatures de point de vue politique. Voilà, là, on est dans un retour de la beauté. Et je me disais, c'est incroyable, là j'avais la preuve que la beauté ne s'exile plus tout le temps.
Voilà. Et si elle est politique aussi, cette construction, pourquoi est-ce qu'on a voulu, ou pourquoi on l'a laissé s'échapper, cette beauté?
La peur.
La peur de quoi?
Mais la beauté fait peur. Bien sûr que la beauté fait peur. La beauté peut paraître subversive, la beauté peut paraître étrange, la beauté dans son magnétisme peut paraître déplacée. Enfin, le politiquement correct est un facteur de destruction de la beauté, mais terrible, non? Attends, on le voit, je sais pas, les femmes en sont les premières victimes. Montrer son corps, être élégante, être sexy, c'est être suspect. Non? N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? je vous vois méfiante. Vous dites, c'est pas à moi de vous poser des questions. Mais non, mais attendez.
Si, c'est vous qui apportez les réponses.
Mais bien sûr. Et avoir une narration un peu audacieuse est aussi suspect. Et pourtant, dans l'audace, il y a de la beauté.
Non, mais c'est très si mais je trouve que c'est quand même très subjectif aussi ce qu'est la beauté, vous le dites vous-même. Il y a quelques principes majeurs,
c'est le risque,
c'est très compliqué à définir la beauté aujourd'hui.
C'est la prise de risque totale.
Est-ce que vous avez le sentiment, Rudy Ricciotti, de faire du beau aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi une recherche pour vous?
Alors évidemment que c'est une recherche, mais je n'ai pas de recul sur mon propre travail, je n'en ai aucun, je suis totalement adossé au mur ou à la falaise, au gouffre. La beauté me fait peur, ça c'est certain. Je suis moi-même terrifié dans l'exercice de mon métier, dans la peur de me tromper. J'ai donc une pratique pratiquement paranoïde de mon métier, tant l'anxiété me dévore. Mais je me dis, c'est peut-être pour la bonne cause, c'est pour éviter de tourner vite ridicule, parce que le ridicule nous surveille.
Vous savez, c'est quoi l'angoisse de quelle serait l'erreur à ne pas commettre pour vous, celle que vous craignez de commettre?
Alors, je vais citer alors Montesquieu qui dit à courir l'exception, on encourt le ridicule. Et je pense que l'exception, elle est dans la partie cachée de la beauté. Voilà. Mais ça, c'est pas un point de vue moraliste, hein, c'est juste un point de vue efficace. Vous savez, comme à l'époque de la querelle des jésuites et des jansénistes, où est l'efficacité de la beauté? Où est l'efficacité de l'entendement? Il faut de la rage pour exiger que la beauté existe encore.
Aujourd'hui, si vous aviez une minute pour un plaidoyer pour la beauté, pour la réhabilitation de la beauté, par quoi commenceriez-vous?
D'abord par le rock, tiens. Je ferai un travail, j'obligerai d'écouter Jimi Hendrix dans les universités pour qu'on arrête le bêlement victimiste. Oui, ce serait un cours. Jimi Hendrix, Alan Vega, John Lee Hooker, Alvin Lee. Du rock comme cours obligatoire. Tu sais, pour revisiter un peu nos fondements, notre mémoire collective, revenir sur une sensualité, avoir au moins une oreille sensuelle, une capacité d'écoute, ce qui participe, comme dans le blues, du fondement d'une pensée positive.
Vous commencez par réparer et faire travailler les oreilles avant le regard, alors.
Ah oui, et puis même comme instruction militaire, je pense.
Merci beaucoup à vous, Rudy Ricciotti. L'exil de la beauté, conversation pour demain, vient de paraître chez Textuel. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture, à Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli pour leur aide précieuse à la réalisation aujourd'hui. C'était Milena Elig.